Bonjour. Dimanche prochain, quatrième dimanche de l'Avent, le dernier dimanche avant Noël. Vous le savez sans doute, chacun des dimanches de l'Avent est centré sur chaque année de la même façon. Le premier dimanche nous donne toujours un passage de l'Évangile dont nous entreprenons la lecture cette année-là, et cette année c'est Saint Matthieu, nous donne toujours un passage du récit sur la fin des temps. Puis, le deuxième et le troisième dimanche de l'Avent nous présente toujours Jean-Baptiste dans sa mission et son rôle à l'égard du Christ lui-même. Et enfin, le quatrième dimanche de l'Avent, juste avant Noël, est toujours centré sur la Vierge Marie. Et d'année en année, nous avons ainsi le récit de l'annonce qui est faite à la Vierge, de l'accueil qu'en fait Joseph, et ce qui nous prépare très directement à la célébration de la naissance du Christ Messie, de Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de Marie. Je voudrais revenir sur ce que je vous disais la semaine dernière à propos de la place de la Vierge Marie dans la foi et dans l'attitude priante des chrétiens. Il y a là quelque chose qui est très sensible, très typique, très symptomatique, un peu comme un indice de la sensibilité de notre foi et de son équilibre, et qui souvent est mal compris ou mal perçu de l'extérieur. Tout d'abord, une première remarque, c'est qu'on ne prie pas la Vierge comme on prie Dieu, ou comme on prie le Christ, ou comme on prie l'Esprit. En effet, quand nous prions le Père, le Fils ou l'Esprit, ou mieux encore quand nous prions le Père en étant unis au Fils, parce que l'Esprit nous habite et nous pousse à prier, quand nous prions ainsi, nous nous adressons à celui qui est au-dessus de tout, au-delà de tout, qui surpasse toute chose et qui est notre Créateur et notre Père. Et nous nous tournons vers lui par la foi, et dans l'amour, dans l'espérance, mais comme la créature devant son Créateur. Même lorsque nous supplions le Christ, notre frère, nous savons bien que, en son humanité, il s'est fait notre frère, mais il demeure le Fils éternel. Et même lorsque l'Esprit qui nous habite est devenu plus intime à nous-mêmes que nous ne sommes, nous le sommes, même quand nous avons conscience de ce don inouï qui est fait aux disciples du Christ, de savoir et d'expérimenter que l'Esprit les habite et que donc, le Dieu inconnaissable et insaisissable s'est rendu si proche au point qu'il habite en nous et nous prenne en lui. Cependant, nous n'oublions pas un seul instant que Dieu est Dieu et que lui seul est Dieu et que nous sommes devant lui des créatures. Mais la Vierge Marie, nous ne la prions pas de la même façon. En fait, prier la Vierge, vous n'aurez qu'à vous réciter la prière du Je vous salue Marie, prier la Vierge, prier la Mère de Jésus, c'est lui demander de prier pour nous. Au fond, c'est un appel à l'intercession, à la prière, à la supplication de quelqu'un qui est comme nous, une créature de Dieu, comme nous, dans notre condition humaine, d'être créé et qui se tourne vers le Dieu invisible, comme nous nous y tournons nous-mêmes. Alors pourquoi lui demander à elle de prier pour nous et pourquoi pas demander nous-mêmes directement à Dieu de nous exaucer ? Eh bien, cette question peut avoir une réponse immédiate et spontanée. Les gens qui ne sont pas trop compliqués auront tout de suite compris. Ils auront dit, c'est la mère de Jésus. Donc c'est tout à fait normal et tout à fait compréhensible. Nous savons qu'elle est sainte de par la volonté de Dieu dès les premiers instants de son existence. Nous savons qu'elle a été appelée par Dieu, choisie par Dieu et que sa chair a été rendue sanctifiée pour donner naissance à la chair du Sauveur. Nous savons bien qu'elle est toute obéissance à la volonté de Dieu et qu'elle garde la parole de Dieu dans son cœur, qu'elle les conserve par la foi et qu'elle est celle à qui le Christ lui-même a remis l'humanité, ou les disciples en la personne de Jean. Nous savons tout cela et par conséquent, il n'y a pas à se poser tant de problèmes. Il suffit de lire l'Évangile et de se laisser guider par l'intuition spirituelle des gens qui ont un peu l'esprit ouvert et le cœur sensible, le cœur pas trop fermé, pour bien voir que la mère peut intercéder auprès du fils. Mais d'abord, tout le monde n'a peut-être pas ces qualités que je viens de décrire. Et puis ça vaut la peine de se poser la question, pourquoi prier quelqu'un de prier pour nous? Eh bien parce que, en faisant cela, au fond, nous commençons à mesurer qu'il y a dans cette attitude à l'égard de la Vierge un test de notre attitude à l'égard de l'Église entière. Vous vous souvenez des paroles de Jésus sur la puissance de la prière. Quand vous demanderez quelque chose en mon nom, à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. La toute-puissance de la prière des disciples. La toute-puissance de la prière de l'Église. Il y aurait bien d'autres propos du Seigneur que l'on pourrait rapporter qui vont dans le même sens. Rappelez-vous le « frapper, on vous ouvrira » la parabole de la veuve importune qui vient assaillir le juge injuste en lui disant « Fais-moi justice », et le mauvais juge qui dit je vais lui céder ce qu'elle me demande, lui donner ce qu'elle me demande pour qu'elle ne me casse plus les oreilles. Et le Seigneur ajoute, écoutez ce que dit ce juge sans justice, et Dieu n'exaucerait pas ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Ainsi donc, dans notre foi, de la part même du Christ, il y a l'affirmation claire que l'Église, les disciples, quand ils prient le Père des cieux, parce qu'ils sont des disciples, parce qu'ils sont des enfants, des fils, s'ils prient vraiment, c'est-à-dire s'ils demandent à Dieu, s'ils se tournent vers Dieu, en se soumettant amoureusement à cette volonté divine, en épousant la liberté divine qui se manifeste à eux, eh bien, nous sommes exaucés. Ce que Dieu veut, nous le voulons, et ce que nous voulons, Dieu le veut. Dieu veut le vouloir. C'est ça la toute-puissance de la prière. Mais nous n'osons pas le croire, cette toute-puissance de la prière. Nous n'avons pas assez foi dans la toute-puissance de la prière. Parce que nous savons bien que notre prière est très mêlée. Elle peut être mêlée de... Au fond, nous pouvons demander à Dieu quelque chose qui est mauvais, après tout. Nous pouvons demander à Dieu quelque chose qui relève de notre caprice, et non pas de notre bonheur, ni de notre sainteté. Nous pouvons demander à Dieu des choses qui même nous paraissent très belles et très bonnes, mais qui relèvent finalement de notre cœur endurci ou de notre esprit obscurci. Et même quand nous souffrons et que nous sommes dans le malheur, eh bien, nous sommes des animaux blessés, et au lieu de prier, nous crions. Et nous n'osons donc pas croire à cette puissance de la prière. Prier la Vierge Marie, c'est placer, démontrer que nous croyons à cette toute puissance de la prière dans la foi, car Marie, alors, qui est de notre côté, représente à elle toute seule l'Église elle-même comme déjà contenue en elle, l'Église qui, en sa personne, déjà supplie le Père des cieux, implore le Fils, est soumise à l'Esprit. Au fond, prier la Vierge Marie en remettant notre exaucement à son intercession, à son intermédiaire, ce n'est pas trouver comme un étage, un échelon supplémentaire entre Dieu et nous, mais c'est reconnaître dans l'impuissance de notre foi, la toute-puissance de la foi de l'Église et de la foi de la Vierge en qui l'Église est déjà prophétisée et en qui l'Église est déjà toute rassemblée. C'est la toute-puissance de l'intercession des saints et la toute-puissance de l'intercession de l'Église telle que Dieu l'a voulu pour l'épouse de son Fils, car telle est bien l'Église, que nous osons croire quand nous regardons Marie, qui est la prophétie de l'Église, qui est, comme l'a dit récemment le pape, la mère de l'Église, et en qui l'Église elle-même est prophétisée et comme résumée, comme d'avance rendue présente. Et puis, si nous poursuivons un peu cette réflexion, nous voyons du coup que aimer la Vierge Marie, en parler avec joie, avec foi, avec simplicité, être heureux de penser à elle, ce n'est pas seulement faire jouer l'imagination et introduire une figure féminine familière qui vient ainsi comme adoucir la distance et l'abîme inconnaissable de Dieu invisible, qui se fait voir en son Fils bien-aimé, qui se fait entendre par sa parole, mais dont nous savons bien que nous devons accepter de ne pas nous le représenter parce que lui se présente à nous. Eh bien, en fait, prier ainsi la Vierge, qu'elle prie pour nous, c'est reconnaître déjà quel est ce mystère de sainteté qui s'accomplit par le Fils. C'est cela qui au fond nous est donné dans le mystère de Noël. C'est reconnaître que dans Marie, c'est notre propre condition qui nous est donnée ainsi, qui nous est donnée de voir et de comprendre. Et je voudrais, si vous le voulez, pour terminer ces quelques réflexions, et pour vous aider peut-être dans ce temps de Noël, dans ces 15 jours qui nous séparent maintenant de Noël, que peut-être, je ne sais pas si ça a déjà été, si c'est une pensée qui vous est déjà venue à l'esprit, voir comment ce que nous appelons les notes de l'Église, les traits caractéristiques de l'Église, unité, sainteté, catholicité, apostolicité, vous savez, je crois dans l'Église une sainte, catholique et apostolique, nous pouvons l'appliquer à la Vierge Marie, et du coup ces notes de l'Église prennent, quand on essaye de comprendre en quoi elles se réalisent en la Vierge, un éclairage tout à fait singulier et qui nous permet de comprendre à la fois le mystère de la Vierge et à la fois le mystère de l'Église. L'unité, qu'est-ce que cela veut dire? Bien, nous pensons, nous, surtout aux divisions des chrétiens et aux divisions de l'humanité. Or, si nous, un éclairage tout à fait singulier et qui nous permet de comprendre à la fois le mystère de la Vierge et à la fois le mystère de l'Église. L'unité, qu'est-ce que cela veut dire? Bien, nous pensons, nous, surtout aux divisions des chrétiens et aux divisions de l'humanité. Or, si nous pensons à l'unité telle qu'elle est prophétisée par la Vierge Marie, de même qu'il y a, comme le dit saint Paul, un seul Sauveur, parce qu'il y a un seul Dieu et Père, de la même façon, nous voyons bien que la Mère du Christ est la Mère de l'unique Sauveur, et qu'en elle, se trouve comme à la fois résumé, rassemblé tout le peuple d'Israël. Elle est la fille de Sion, ainsi que la tradition chrétienne l'a nommée, et comme les évangélistes la nomment expressément par citation implicite, spécialement saint Luc, elle est bien la fille de Sion en qui tout le peuple de l'Alliance se trouve comme présenté, lui qui va enfanter le Sauveur. Et en elle, dans la mesure où elle est la mère du Sauveur, en elle sont présents et rassemblés comme d'avance tous ceux qui seront enfantés à la vie des enfants de Dieu et qui seront donnés comme des frères et des sœurs au Christ. Ainsi, l'unité du corps entier, de la totalité de l'humanité rachetée, est comme prophétisée dans cette figure maternelle. Et c'est bien une unité d'enfantement qui est ainsi proposée. Nous, quand nous pensons à l'unité, nous pensons d'abord à la dispersion dans laquelle nous vivons, et nous voyons l'unité comme un rassemblement qui rassemblerait les enfants de Dieu dispersés. C'est bien cela, l'œuvre de salut auquel Dieu veut que nous travaillions. Mais en même temps, nous voyons bien que l'unité véritable à laquelle nous sommes destinés, c'est cette unité fondamentale, l'unité de la création première et l'unité de la nouvelle création, dont la figure maternelle de la Vierge, nouvelle Ève, est la prophétie et déjà l'anticipation. Puis pensons à la sainteté. Je ne vais peut-être pas m'étendre sur ce point parce que il me semble que la semaine dernière, j'en ai parlé un peu plus longuement. Mais en Marie, à qui Dieu donne, dès le premier instant de son existence, la sainteté absolue, la sainteté d'une créature totalement saisie par son Créateur et délivrée de toute espèce de mal. Et nous voyons bien là l'annonce du monde nouveau et qui dit ce qu'est la sainteté, c'est-à-dire la présence de Dieu au milieu de sa créature, qui transfigure sa créature. Et de la même façon, c'est bien de sa chair que naît Jésus, celui que reconnaissent, que toute la création reconnaît comme le Saint de Dieu, et celui par qui nous sommes sanctifiés, rendus saints en ne faisant plus qu'un avec lui. Car de même que je disais un instant que la sainteté, c'est recevoir en soi l'habitation de Dieu, avoir en soi la présence de Dieu qui vous transfigure, qui transfigure notre condition humaine, concrètement, cela signifie ne faire qu'un avec le Christ qui, lui, est le Saint de Dieu. Les saints, ce sont ceux que le Christ unit à soi pour leur faire partager sa condition de fils et pour leur faire partager son appel, sa mission et la manière dont il obéit à son Père, dont il accomplit la volonté de son Père, dont il aime, et son Père et ses frères. C'est ceux qui partagent la condition du Christ et partagent l'action du Christ. La sainteté, c'est cela. Et nous voyons bien comment c'est de Marie, naissant de la maternité de l'Église, nous sommes d'une certaine façon en son fils enfanté par elle. Et puis si nous pensons à la catholicité, je me dépêche maintenant parce que j'ai dépassé mon temps, bien vous réfléchirez que la catholicité c'est d'abord non pas l'universalité au sens strict du mot, mais c'est le fait que les nations païennes aient part à l'héritage, comme dit saint Paul, des saints, c'est-à-dire du peuple d'Israël. Et c'est bien par elle que naît le sauveur de toutes les nations. Et quand les nations qui ne connaissaient pas Dieu accèdent à la connaissance du Dieu vivant et vrai, de l'unique Seigneur, eh bien, ils ont accès, et en cela, par Marie, la dimension catholique, c'est-à-dire selon la totalité de l'humanité, peut se réaliser, puisque c'est de celui qui est né d'elle que les nations recevront la connaissance du Dieu vrai. Et enfin, apostolique, eh bien, c'est le mystère de l'Église, comme collège des apôtres, peuple nouveau, fondé sur les 12 apôtres, et je n'ai pas le temps de développer cette considération, je le laisse à votre intuition et à votre méditation personnelle, mais bien sûr, assurément, vous avez déjà pensé au Cénacle, où la Vierge Marie, comme le dit saint Luc, est présente avec les apôtres, vous avez pensé au Cénacle et vous avez pensé au don de l'Esprit. Ainsi donc, et je m'arrête là, priez la Vierge, ce n'est pas la prier, priez la Mère de Jésus, ce n'est pas la prier comme on prie Dieu, nous la prions en recourant par elle à l'intercession toute puissante de l'Église, puisque elle est déjà l'Église comme croyante, elle est la fille de Sion qui reçoit son Sauveur, et elle est celle que Dieu écoute, parce qu'elle est totalement à l'écoute de Dieu, qu'elle intercède pour nous, dans sa foi humble et sa fidélité, maintenant et à l'heure de notre mort. Bon Noël à tous déjà.